Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Eh bien, je suis ravi de retrouver tous nos auditrices, tous nos auditeurs, ce soir pour une nouvelle émission de Pluriel Gay. Je suis ravi de retrouver également Bernard à la technique, qui Boris n'est pas là ce soir.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon. Et puis c'est un plaisir de passer de temps en temps à la maison.
Voilà, le plaisir est amplement partagé. Donc aujourd'hui, donc, nous sommes la veille du 1er décembre, qui est la journée de lutte, enfin la journée mondiale de lutte contre le sida et le VIH. À l'occasion, j'ai invité donc l'association Basiliade qui n'était jamais venue à l'émission, donc c'est une première. Mais avant d'en venir à nos invités, nous devons avoir en ligne un autre invité téléphonique, celui-ci. C'est Jean-Luc Romero. Michel, est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il m'entend?
Oui, je m'entends très bien. Bonsoir.
Eh bien, bonsoir et d'abord merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à ce petit entretien téléphonique. Donc rapidement, je vais rappeler qui vous êtes, bien que vous soyez déjà bien connu. Peu de monde ne ignore qui vous êtes, mais pour ceux qui seraient dans l'ignorance, on va quand même le rappeler. Vous êtes élu, vous êtes un élu de la République, vous êtes maire adjoint à la mairie du 12e arrondissement de Paris, puis vous avez aussi beaucoup de casquettes, notamment celle, et c'est celle qui nous intéresse ce soir, celle de présidente de l'association des élus locaux contre le sida, une association qui a 21 ans d'existence. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, c'est
non,
ça
non, non, 21 c'est bon pour l'instant.
Pour l'instant, tout va bien.
Merci.
Bon. Alors, vous êtes aussi écrivain, il faut le rappeler, et auteur notamment, parmi de nombreux ouvrages, vous êtes auteur d'un livre qui est paru en 2002 qui s'appelait Virus de vie et dans lequel vous parliez de votre séropositivité. C'est un livre qui avait été remarqué à l'époque. Et puis il se trouve que, on en reparlera enfin à la fin de notre entretien, que vous venez de publier récemment donc un survivant, ça, le titre s'appelle Survivant mes 30 ans avec le sida, donc qui est un nouveau livre, nous reviendrons dessus. Alors simplement pour situer un petit peu des élus locaux contre le sida, très rapidement, quels sont les objectifs de cette association donc qui a 21 ans d'existence, qui n'est pas d'hier?
Ben c'est enfin le principe de l'association est parti du fait que c'est, on le sait très peu, mais parmi les 500 000 élus français, la plupart sont des bénévoles qui ont la même fibre que les militants associatifs. Et quand cette association a été créée, c'était juste avant l'arrivée de ce qu'on a appelé les trithérapies. Dans les associations de patients, les responsables mouraient, il y avait de moins en moins de monde et on s'est dit, des élus, il y en a sur tout le territoire français, ils ont souvent la même fibre, ils donnent beaucoup d'eux-mêmes, on sait que c'est pas une maladie comme les autres, qui a énormément de préjugés, donc ce serait bien que des élus s'engagent à la fois à travailler bien sûr sur la prévention, sur l'aide aux malades et puis à lutter contre l'ignorance, à lutter contre les préjugés, tout ça aux côtés des associations. Et donc cette association aujourd'hui, elle a pour but en tout cas de faire avancer les choses, bien sûr au niveau national en défendant des thèmes importants qui n'avancent pas assez vite à notre goût, voire au niveau international. Par exemple, l'association a été très en pointe sur la question de l'interdiction de circuler des personnes séropositives, puisqu'il y a encore aujourd'hui une quarantaine de pays qui interdisent leur territoire aux personnes séropositives, et c'est un de nos combats depuis longtemps. Et voilà, essayer de sensibiliser les élus à une maladie qui est en plus aujourd'hui devenue totalement invisible, parce que les gens n'osent plus dire qu'ils vivent avec le VIH, ce qui est quand même terrible en 2016, où on voit que les progrès médicaux, malheureusement, n'ont pas été suivis de progrès sociétaux.
D'accord. Alors, en même temps, pour parler de l'évolution un petit peu de la perception de la maladie, en tout cas, il semblerait, je mets ça au conditionnel, mais il semblerait quand même que la charge émotionnelle concernant la maladie, concernant le VIH, n'est quand même pas celle qui existait au début. Bon, ça se comprend, au début, on ne savait pas soigner et être diagnostiqué avec le VIH, c'était un peu condamné à mort pratiquement hein, dans les années, il y a une trentaine d'années, au début des années 80. Maintenant, il semblerait que la maladie soit passée comme une maladie chronique, même chez les personnes les plus concernées, je pense aux gays, aux homosexuels, ça semble pas un problème majeur à l'heure actuelle dans cette population, qui pourtant, on le sait, le virus reste prévalent dans la population HSH, donc ce qu'on appelle HSH, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez que cette démobilisation, est-ce que vous la ressentez déjà, cette démobilisation ?
Oui, bien sûr, il y a une démobilisation à tous les niveaux, particulièrement dans la communauté gay, comme vous venez de le dire. Par contre, je suis pas sûr du tout que ce soit aujourd'hui beaucoup plus facile d'apprendre sa séropositivité. Et moi, je l'explique dans ce livre, je pense qu'au contraire, c'est plus compliqué. Quand moi, je l'ai appris, c'était en 87, j'étais donc très jeune, il y avait de la compassion, tout le monde vous entourait, et notamment dans la communauté gay. Aujourd'hui, on est passé à autre chose, on est passé à la culpabilisation. Quand quelqu'un dit à ses amis, à ses proches, je viens de devenir séropositif, on lui dit, mais comment tu as fait avec tout ce qu'on sait, c'est pas possible. Alors voilà, le truc est fait maintenant. Est-ce que c'est le moment de commencer à le culpabiliser? Et on voit d'ailleurs des gens qui se retrouvent souvent seuls. D'ailleurs, si cette maladie est devenue totalement invisible, alors que c'était pas le cas dans les années 90, il y avait notamment des personnalités, les gens le disaient beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est au contraire beaucoup plus compliqué. C'est certes, il n'y a plus ce côté épée de Damoclès, mort qu'on vous annonce, mais au niveau social, je pense qu'il y a de vraies difficultés, et c'est pour ça, moi, je vous sais, toutes les semaines, facile de nous joindre maintenant avec les réseaux sociaux. Moi, il n'y a pas une semaine où j'ai pas, notamment un jeune gay qui me confie qu'il vient d'apprendre sa séropositivité et qui soit a été rejeté par ses copains, soit n'arrive même pas à leur en parler tellement il a peur. Je trouve ça aberrant en 2016, mais c'est quand même cette réalité-là aujourd'hui.
Donc tous les combats, toutes les luttes ne sont pas sont à poursuivre quoi. Il y a encore des choses à faire dans le cadre de la lutte contre le SIDA, contre le VIH.
Ah ben il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout qu'en plus pour la première fois on a un espoir. C'est-à-dire que c'est pas un espoir vain. On peut faire disparaître le SIDA. Moi ce matin j'étais, avant d'arriver à Lyon, j'étais encore en région Île-de-France où je suis élu. Et je suis ambassadeur d'une Île-de-France sans SIDA. Il y a aujourd'hui, si on s'en donne les moyens, la possibilité de faire disparaître le SIDA. L'ONU SIDA a fixé ça à 2030. En 2030, rendez-vous compte, c'est quand même fantastique, il peut y avoir des générations qui vont naître sans le VIH et qui pour eux, quand on leur parlera du VIH, c'est une histoire qui a existé avant eux, un virus qui a existé avant eux.
Alors, est-ce que là,
c'est possible, mais il faut de la volonté. Aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté politique.
Est-ce que vous pensez donc que la possibilité d'un vaccin va finalement devenir une réalité
Alors,
bientôt?
Alors, je pense que non. Justement, je pense que pour la première fois, vous savez que tous les virus en général disparaissent grâce à un vaccin. Je pense que pour la première fois, on va peut-être avoir un virus qui va disparaître grâce au traitement. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, si toutes les personnes dans le monde qui sont séropositives, et particulièrement en France, il y en a quand même 30 000 qui ne savent pas qu'elles sont séropositives, et qu'elles sont mises immédiatement sous traitement, ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous êtes, si je pourrais utiliser cette expression, séro-inoffensif. C'est-à-dire qu'une personne sous traitement n'infecte plus les autres. Et c'est comme ça que le sida peut disparaître. Si tout le monde est mis sous traitement à un moment donné, eh bien le VIH va disparaître de lui-même. Donc vous voyez que c'est un espoir absolument fou. Alors peut-être qu'il y aura un vaccin avant. Pour l'instant, vous savez, des vaccins, moi j'entends parler depuis 30 ans, on les voit pas beaucoup arriver. En tout cas, on nous dit qu'il y en a toujours un efficace. Et puis à chaque fois, on se rend compte que non. Alors que là, on sait que si on dépiste, si on met sous traitement, eh ben le sida disparaît, mais maintenant voilà, c'est ça le gros enjeu. Dans notre pays, qu'on découvre ces 30 000 personnes, et puis que dans le monde, c'est presque la moitié des personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives, et puis qu'on permette à ces gens de pouvoir se soigner, parce que ne l'oublions pas, et c'est quand même pour nous terrible quand on vit dans nos pays riches où on a accès au traitement, de penser qu'aujourd'hui, vous voyez, durant toute cette journée de mercredi, il y a 3200 personnes qui sont mortes dans le monde. C'est inacceptable, alors qu'avec ces traitements, la plupart ne seraient pas morts.
Alors, il y a eu récemment en France donc une campagne de publicité, c'est pas le mot exact, hein, une campagne d'affichage sur la prévention. Donc tout le monde en a entendu parler parce que cette campagne, outre le fait qu'elle était très visuelle, elle était sur des abribus dans de nombreuses villes françaises. Outre ce fait-là, elle surtout a provoqué du remous, puisqu'on sait que des maires républicains, de droite en général, ou du centre, ont interdit l'affichage sur leur territoire communal. On pense notamment aux maires d'Angers ou d'Aulnay-sous-Bois, qui sont les villes principales qui ont été citées. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire-là, de cette levée de bouclier, je dirais, d'une partie d'élus contre cette et de personnalités contre cette campagne d'affichage ?
Oui, j'ai évidemment, comme beaucoup, très mal réagi. Je n'imaginais pas qu'en 2016, on aurait des élus qui estimeraient que cette campagne est attentatoire aux bonnes mœurs. Cette campagne, pour ceux qui l'ont vu, qui est destinée aux gays, et c'est normal de faire des campagnes vis-à-vis des populations vulnérables. Dans notre pays, 15% des gays sont touchés par le VIH. On sait que, malheureusement, les infections continuent chez les HSH, et donc, il faut absolument faire des campagnes à leur destination. Alors, la seule bonne chose, c'est qu'évidemment, cette polémique a permis au moins que tout le monde voit cette campagne, donc ça, c'est la bonne chose, mais après le reste, oui, c'est effrayant, parce qu'on voit bien que derrière, y a forcément de l'homophobie. Comment on peut faire un scandale de voir deux hommes qui sont là d'une manière extrêmement pudique dans ces campagnes de prévention et pas être scandalisé alors qu'il y a en ce moment des campagnes où on voit des couples hétérosexuels à moitié nus pour des campagnes de publicité pour certains produits de luxe ou des femmes pour des produits de lingerie. Ça ne leur pose aucun problème. Moi, ça ne m'en pose d'ailleurs aucun non plus. Mais je veux dire, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on regarde objectivement ces photos, quand on voit le contenu de cette campagne, on ne peut que se dire que ces gens-là, c'est une fois de plus l'homosexualité qui vise, et c'est quand même terrible parce qu'on est en 2016, que depuis 3 ans on a le mariage pour tous, et que l'homosexualité, même si M. Fillon a voté contre, a été dépénalisée en 81.
Très bien. Donc, pour terminer, on va terminer un petit peu notre entrevue, parce que je sais que vous êtes très très pris. Hein. Vous êtes à Lyon, en fait, actuellement.
Oui, je suis à Lyon.
Voilà,
oui.
C'est la raison pour laquelle.
Quelques minutes, il n'y a pas de problème.
à Lyon, donc, vous êtes en fait venu remettre le label de ville engagée contre le SIDA, qui est un label donc que vous remettez systématiquement chaque année à une commune française ou une collectivité française.
Oui.
Et qui est donc, c'est un vote, je crois, hein, du bureau de national,
oui, c'est
de ELC, enfin, des élus.
Voilà, il y a un questionnaire, il y a évidemment un questionnaire qu'a dû répondre Lyon. Lyon répondait en tout cas aux critères, et c'est pour ça que Lyon devient la 9e ville engagée contre le sida en France, et donc c'est décerné par les locaux contre le sida, par son bureau national. Et voilà, et parce que c'est important, parce que c'est vrai que la visibilité, au-delà de l'argent, qu'il faut mettre dans la lutte contre le sida. La visibilité est importante. Vous savez, moi je dis toujours, le sida se soigne aussi par la politique. On a besoin de mots. Vous savez, si j'ai sorti ce livre il y a quelques jours, c'est pas seulement pour raconter mon histoire, c'est pour raconter l'histoire du sida, et c'est pour raconter la mobilisation qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, et dire que on ne vaincra le sida que quand il y aura une nouvelle mobilisation de la population. Et donc il faut savoir reconnaître quand des villes sont engagées dans ce combat, et Lyon fait partie des villes en France qui, comme Paris, qui est en plus engagé dans un Paris sans sida, est une collectivité très engagée dans le combat contre le VIH-Sida.
Alors, vous évoquez votre dernier livre, donc Survivant mes 30 ans avec le sida. Donc, c'est un livre, je dirais, qui fait suite. Alors, je ne sais pas hein, si vous allez me contredire, peut-être, à ce premier livre dont je parlais, Virus de vie, qui est paru en 2002. Comment présenter ce livre
En fait, c'était à la fois la volonté, c'est face à l'invisibilité de cette maladie, de ce virus. Je me disais, voilà, j'arrive à mes 30 ans avec le VIH. Il fallait pouvoir expliquer ce que c'était pour d'abord donner de l'espoir aux personnes qui apprennent leur séropositivité et qui croient qu'ils n'auront pas une vie amoureuse, sexuelle, professionnelle. Et je pense que mon exemple leur montre que c'est possible, même si je ne veux pas les leurrer, non plus leur dire que tout ça sera facile. C'est pas vrai. C'est plus difficile d'être séropositif que de ne pas l'être. Je voulais aussi, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas toute la mobilisation qu'il y a eu, notamment de la communauté gay, qui a été la première à se lever, alors que les pouvoirs publics ne parlaient pas du VIH. Vous savez, je raconte dans le livre que François Mitterrand a attendu 1987 pour dire pour la première fois le mot sida, que jusqu'en 87, les campagnes pour les préservatifs étaient interdites en France, par exemple, que les seringues n'étaient pas en vente libre, que c'était pareil aux États-Unis, que le maire de New York, qui était lui-même homosexuel, se refusait à prendre des mesures, que Ronald Reagan, et que c'est la mobilisation de militants, d'abord aux États-Unis et puis dans toute l'Europe et bien sûr en France, qui a fait que les pouvoirs publics ont pris cette maladie. Je voulais raconter ça, et je voulais aussi raconter cet espoir fou qu'on a aujourd'hui de faire disparaître le sida, parce que les gens ne le savent pas. on n'en parle pas suffisamment. Ils n'ont pas conscience qu'aujourd'hui, un monde sans sida, c'est possible, mais pour ça, il faut une pression. Regardez les programmes des primaires des deux derniers candidats, il n'y avait pas un mot sur le sida. Alors que vous imaginez un chef d'État qui dit « je vais arrêter le chômage », bah, on peut dire ça, mais c'est pas sûr. Par contre, quand on dit « je veux finir le sida », si on y met l'argent, eh bien, bien sûr qu'on peut y arriver. Et en même temps, ce livre, c'était aussi un livre, parce que quand vous avez vécu 30 ans avec un virus, et que vous avez cru d'ailleurs ne jamais vous en réchapper, bah, j'essaye de donner des conseils à tous les gens qui vivent avec des maladies au-delà du sida, les gens qui ont des cancers et tout, parce que voilà, j'ai de cette expérience, j'en ai conclu que j'ai fait un certain nombre de choses sans y réfléchir à une époque et qui m'ont permis d'être ce survivant et qui m'ont permis, parce que vous savez, dans le livre, dans Survivant, le V, il est en majuscule. Bah, peut-être de vivre peut-être plus intensément que si je n'avais été séronégatif, parce que quand on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, quand on a un cancer, une maladie grave, on vit autrement, et j'essaye aussi dans ce livre de donner des conseils à ceux qui, comme moi, ont été confrontés ou sont confrontés à la maladie.
D'accord, donc c'est un livre qui vient de sortir, qui vient d'être édité donc aux éditions Michelon.
Hein, oui, tout à fait.
Voilà. Très bien. Bon, bien écoutez, Jean-Luc Romero-Michel, une dernière chose avant que nous vous laissions à vos occupations. Un petit mot de politique, en fait, parce que vous évoquiez les primaires. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Évidemment, Fillon, à la surprise générale, apparemment, en tout cas, est arrivé en tête des primaires de la droite. Alors, est-ce que le programme de Fillon... Bon, je vais vous poser une question qui va vous sembler stupide, mais vous allez me dire oui, probablement. Mais bon, non, finalement, hein, peut-être que vous avez des nuances à apporter, je ne sais pas. Est-ce que le programme de Fillon représente un réel danger pour la loi Mariage pour tous ?
Ah bah clairement, ouais. Bien sûr, puisque lui-même, dans ce qu'il va faire, oui, moi je crois qu'au final, il ne pourra pas aller au bout quand il... Il a dit qu'il ne remettrait pas en cause le mariage, mais qu'il remettrait en cause l'adoption plénière pour les couples homosexuels. Moi je pense que ça tiendra pas la route devant le Conseil constitutionnel, parce que vous imaginez, il y aura plusieurs situations. Vous aurez d'un côté les homosexuels qui ont pu, avant la loi, adopter de manière plénière, ceux qui pourront plus, donc déjà c'est une inégalité devant le droit, et vous aurez après des couples hétérosexuels mariés comme les couples de même sexe, qui eux auront droit à l'adoption plénière et les autres pas. Moi je pense que dans notre droit ça peut pas passer ça. Mais en même temps oui, c'est très inquiétant, parce que c'est très inquiétant de voir qu'on joue encore avec ça, comme si on n'était pas des citoyens à part entière, comme si on était des sous-citoyens et comme si on ne savait pas élever nos enfants. Vous savez, les familles homoparentales, elles ont existé depuis longtemps et bien avant qu'il y ait la loi sur le mariage pour tous ou bien avant qu'il y ait le PACS, mais elles étaient dans une insécurité totale et il fallait qu'il y ait ces lois et remettre les familles. Et vous savez, moi ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de gens qui sont justement dans le cadre d'une procédure d'adoption et qui sont très très inquiets. Faut se mettre à la place de ces couples de femmes, de ces couples d'hommes qui ont fait un projet parental, parce que vous savez, chez les homosexuels, quand vous faites un projet familial, il est toujours beaucoup plus réfléchi. Vous réfléchissez à toutes les conséquences. Et vous voir, vous mettre dans cette insécurité, voir, comme moi je l'ai vu, un enfant de 12 ans, chez un de mes amis, qui me disait il y a quelques jours, mais pourquoi il s'attaque à nous, monsieur Fillon, mais pourquoi, mais ma famille, alors, qu'est-ce qu'on a fait de mal, etc. Vous imaginez pour ces ados, qui en plus assistent à ce débat-là, qui vivent dans des familles homoparentales, mais c'est d'une violence absolument inouïe, et tout à fait scandaleuse. Et moi, oui, ça me fait très peur quand on voit que quand même, le soir de la victoire de monsieur Fillon, il y a quand même Frigide Barjot qui triomphe là, et que Sens Commun, qui est cette association proche de la Manif pour tous, qui est intervenue dans quasiment tous les meetings de monsieur Fillon, ces gens-là qui ont manifesté contre nous, parce qu'il faut quand même savoir, c'est quand même la première fois dans notre histoire qu'on a un mouvement avec la Manif pour tous, avec Sens Commun qui s'est créé, qui se bat pas pour avoir plus de droits, mais qui se bat pour empêcher les autres d'en avoir. C'est quand même du jamais vu, c'est d'un égoïsme absolument hallucinant. Et oui, il faut se battre, et moi je le dis, vous savez, beaucoup de LGBT se disent les combats, tout a avancé, etc. Le progrès, il n'est pas linéaire. Il faut se battre plus que jamais. On évoquait tout à l'heure pour le sida, moi j'aimerais aussi qu'il se remobilise, mais sur toutes ces questions d'égalité, le combat, il n'est pas fini, rien n'est jamais acquis, et il faut plus que jamais se faire entendre, la campagne, elle n'est pas finie pour les présidentielles. Si on n'est pas élu encore, je ne sais pas ce qui peut se passer, parce qu'on est dans un flou comme jamais, mais en tout cas, nous, il faut qu'on ait conscience que si Fillon est élu, eh bien ce sera moins de droits, et ne l'oublions pas, Fillon a voté contre toutes les avancées. Il est député, enfin, il est député depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus combien d'années, mais il a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 81. Ça veut dire quelque chose quand même. Il a voté contre le PACS. Il a voté contre le mariage pour tous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on attende de quelqu'un qui n'a jamais évolué? Il aurait évolué ces dernières années, on pourrait espérer des choses. On voit bien que sur ces questions-là, et je dirais même sur d'autres, sur l'avortement, etc., il y a de vraies inquiétudes à avoir, et c'est pour ça que je pense qu'il faut se mobiliser, et qu'en tout cas, il faut faire connaître ce programme, parce que c'est pas possible d'avoir des familles qui sont aujourd'hui dans l'inquiétude, qui se demandent ce qui va se passer, de voir des enfants. Parce que quand on parle de l'intérêt de l'enfant, eh bien là, quand ces enfants entendent ça à la télévision, quand ils sont ados, croyez-moi, c'est une violence inouïe. Eh bien, rien que pour ça, il faut qu'on se remobilise tous.
Alors, pourquoi, justement, Sens commun, la Manif pour tous, toute cette nébuleuse, je dirais, parce qu'on entend bien votre discours, hein, eux, ils disent que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Et pourquoi eux présentent toujours cela pour la défense de l'intérêt de l'enfant, alors que, si on vous écoute, et puis c'est ce que nous pensons ici, évidemment, la mission s'appelle Pluriel Gay, donc si on pensait le contraire, ça serait embêtant, mais il s'agit en fait d'un ressort homophobe, en fait. C'est de l'homophobie, en fait, basiquement.
Bah, bien sûr, mais comment ils peuvent dire que c'est l'intérêt de l'enfant? Vous croyez que ça les intéresse, ces enfants qui vivent dans les familles homoparentales? D'ailleurs, ils parlent non plus jamais des familles monoparentales qui existent dans ce pays en nous disant qu'il faut dans toutes les familles un papa, une maman, etc. Je veux dire, il n'y a pas de cadre idéal dans les choses. Ce qui est important pour un enfant, c'est qu'il vit avec des personnes qui l'ont désiré, avec un couple qui l'a désiré. C'est la seule chose qui compte. Et je vous le dis, quand on parle de l'intérêt de l'enfant, il y a combien de couples hétérosexuels qui ont des enfants pas prévus, qui gardent comme ça. Bon, après, ça se passe certainement bien, mais pas toujours. Hein, et on l'a entendu, parfois, il suffit de parler avec certains de nos amis hétérosexuels. Moi, je n'ai jamais vu des couples homosexuels qui sont entrés dans un projet parental sans avoir une immense réflexion. Et donc, évidemment, et leur réflexion, c'est quoi? C'est de penser à cet intérêt de l'enfant. Ses parents, ils pensent qu'ils ont quelque chose à lui apporter à cet enfant. Et ils mettent un cadre pour qu'il soit le mieux possible. Alors qu'on arrête de nous dire que eux parlent de l'intérêt de l'enfant. Non, parce que tous ces enfants dans ces familles homoparentales, ils existent et quelque part, ils veulent pas qu'ils aient les mêmes droits que les autres. Et c'est d'abord à ces enfants qu'ils s'attaquent. Et oui, c'est de l'homophobie. Oui, c'est de l'homophobie de pas vouloir que les autres aient les mêmes droits que soi et que les familles n'aient pas les mêmes droits. Bien sûr que c'est ça. Même si maintenant ils se mettent à attaquer tous les gens qui disent ça, la réalité, elle est là. En tout cas, il n'y a jamais eu un mouvement ces dernières années dans notre pays qui se bat pour que les gens perdent des droits. C'est la première fois et c'est bien pour ça qu'il faut être mobilisé, parce que eux se sont mobilisés. Ceux qui sont allés voter pour Fillon, c'est ces gens-là.
Oui.
C'est 4 millions de Français, ou 3 millions pour lui en tout cas, mais c'est pas les 40 millions d'électeurs, et il faut que chacun prenne conscience de ce qui va se passer, et puis ça va beaucoup plus loin en termes sociaux. Les plus modestes, ils vont voir ce qui va se passer avec le programme de Monsieur Fillon. Je crois que pour nous, c'est de la régression sociétale, et rien que pour ça, il faut qu'on se batte et il faut qu'on se fasse entendre. Il faut que le mouvement LGBTI soit uni parce que on n'est pas des citoyens Kleenex qu'on peut jeter au gré des élections, au gré des programmes. On est des citoyens à part entière et on doit être respecté de cette manière-là.
Alors, donc, pour ceux qui penseraient le contraire, le message est passé. Que ce soit pour lutter contre le sida, le VIH, ou que ce soit pour défendre les droits LGBT, la lutte n'est pas terminée.
Elle est loin d'être terminée.
En tout cas, merci beaucoup Jean-Luc Romero-Michel, donc maire adjoint du 12e arrondissement de Paris, président, entre autres, parce qu'on n'a pas parlé de vos autres casquettes, mais on n'aura pas le temps de le faire ici, mais président des élus locaux contre le sida. On rappelle donc que demain, vous remettez à la ville de Lyon le label, oui. Donc... de ville engagée contre le sida, que ça va se passer au centre LGBTI de Lyon. C'est à partir de 11h en présence d'élus de la République et en présence d'associations et d'organisations qui sont impliquées dans la lutte contre le VIH et le sida. Merci beaucoup encore une fois d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté notre entretien téléphonique et puis bon séjour à Lyon.
Bah merci, puis à très bientôt.
À très bientôt.
Bonne émission, au revoir.
Merci, au revoir. Eh bien voilà, c'était donc Jean-Luc Romero, on l'aura compris. Jean-Luc Romero, Michel. Alors avant de continuer l'émission, on va peut-être passer le petit morceau qu'on avait dit, mon petit Bernardo, c'est-à-dire Queen et David Bowie. On passe souvent du David Bowie ici, et Queen aussi, parce qu'on les aime bien. David Bowie, d'ailleurs, on en a passé la semaine dernière. Et là, on passe les deux ensemble, parce que bah, les pauvres, hein, maintenant, ils ont rejoint les étoiles, pour Freddie Mercury depuis longtemps, depuis 25 ans. On sait que Freddie Mercury bon, est décédé des suites du sida. 25 années, donc... moi j'ai pensé que c'était en cette veille du 1er décembre aussi l'occasion de rappeler ce grand artiste qui nous a quittés. Et donc avec David Bowie, ils ont fait un duo qui s'appelle, donc dans les années 80, ils ont fait ça, ils ont enregistré un duo qui s'appelle donc Under Pressure. Donc il faut rester sous pression, nous dit Jean-Luc Romero.
Slashed and torn.
C'est bon, on y est à l'antenne. De retour, donc sur les ondes de Pluriel Gay Je l'ai dit avec l'association Basiliade. Alors aujourd'hui, on est veille de la journée mondiale de lutte contre le VIH et le sida. C'est le 1er décembre. Et Basiliade est une association qui est association donc qui existe à Paris et à Lyon, qui existe depuis, j'ai vu, 1993, hein, si je me, j'ai bien noté. On va dire que ça fait un bail quand même aussi. Et Basiliade, donc, on va présenter, j'ai déjà présenté mes invités. Donc, nous, j'ai à ma droite, présentez-vous.
Alors, Élodie Denoyer-Pardot, je suis coordinatrice sociale.
Et vous êtes salariée donc de l'association.
Tout à fait.
Et à ma gauche...
Donc moi je m'appelle Lionel Méran et je suis infirmier à l'association Basiliade.
Et donc vous travaillez, pour vous c'est du travail à temps plein pour vous Basiliade ?
Oui, oui, tout à fait.
Alors Basiliade donc c'est une association,
oui.
On est d'accord, jusque là tout va bien. Est-ce que, sur quel critère est née cette association ? Pourquoi elle est née d'ailleurs ? Comment ça se fait qu'elle existe ? Parce que Basiliade œuvre dans un cadre bien précis, on va en parler évidemment. C'est dans le cadre de la lutte aussi contre le VIH, contre le sida évidemment, mais... Comment est née cette association ?
Ben, Basiliade est née en 93 effectivement sur un besoin d'accompagner des personnes malades, donc du VIH effectivement sida à l'époque, et elle s'est développée autour de ce qu'on appelait un peu des maisons, des lieux d'accueil où les personnes malades pouvaient trouver du confort, du réconfort, de la discussion, des repas et de l'accompagnement effectivement social à ce niveau-là.
Ce qui veut dire qu'en fait, les personnes qui sont prises en charge par Basiliade sont des personnes qui sont, outre le fait d'être concernées par le VIH, des personnes qui sont en situation de précarité, que ce soit sur le plan social, sur le plan émotionnel, sur divers plans.
Oui, tout à fait. Mmh. Toutes les personnes qu'on accueille ont ce même point commun, c'est d'être dans une situation de précarité et qui, en fait, sont handicapées au-delà de la maladie parce que ça induit... Et dans tout ce qui est insertion, dans la globalité de la personne, quoi.
D'accord. Donc, vous avez une prise en charge de la personne aussi sur le plan psychologique, donc, de revalorisation de la personne, mais aussi de contact avec les familles. Comment ça se passe ?
Alors, nous, l'action de Basiliade, elle se fait de plusieurs manières, en fait. On a déjà, normalement, alors je vous tiens à préciser qu'on aurait dû avoir un des bénévoles qui aurait dû être présent là ce soir et qui en fait est malade. Donc on a gardé cet esprit-là d'avoir des gens qui sont accueillants et bienveillants avec les personnes qu'on accueille, avec une équipe de bénévoles qui est extraordinaire et qui accueille très très bien toutes les personnes qu'on reçoit. Et donc avec des actions autour de repas, d'actions le soir, diverses animations. Et puis on a aussi l'action d'accompagnement des personnes autour de l'hébergement et plus précisément autour des appartements de coordination thérapeutique. Donc là, on est plusieurs salariés. Donc il y a deux infirmiers, une psychologue, deux coordinatrices sociales, une secrétaire et un chargé d'accueil et notre chef de service qui organisons cet accompagnement. Voilà. On a 19 appartements de coordination thérapeutique.
Sur Lyon.
Sur Lyon, oui. Tout à fait, dans l'agglomération. C'est des appartements qui sont en diffus. 6 appartements relais et 2 appartements de stabilisation. Donc voilà, donc tout est fait pour permettre à la personne déjà de gagner dans son autonomie au niveau de son soin, la prise de traitement, mais aussi lui permettre d'accéder à l'autonomie sociale et de pouvoir avoir tous les droits ouverts, justement, lui garantir l'accès à ses droits.
Alors, donc, il y a deux points que vous avez évoqués. Donc, il y a le côté hébergement et le côté aussi accueil. C'est-à-dire que vous accueillez beaucoup de monde, je suppose, qui ne sont pas spécifiquement des personnes hébergées par Basiliade, mais qui peuvent venir à l'association. Ce qui implique que vous avez aussi des locaux, un local aménagé, etc., pour recevoir les gens.
Oui, on a un superbe local. Depuis un an et demi, on a déménagé. Auparavant, on était à la rue du Griffon. Maintenant, on est au 9 Place Aristide Briand, dans des locaux magnifiques et avec un lieu d'accueil...
Plus spacieux, peut-être.
Plus spacieux, ouais. Très lumineux, avec un carrelage magnifique. Enfin bon, tout est... parfait et avec un lieu d'accueil très chaleureux qui accueille les personnes tous les mardis matins autour d'une permanence petit déjeuner et les mercredis soirs avec des repas et deux samedis dans le mois aussi pour un repas à midi.
Alors toujours pour des, sur un plan pratique, vous parlez donc de 19 appartements. Vous avez parlé, vous avez évoqué, Elodie, donc des appartements de coordination thérapeutique, mmh, et des appartements relais. Quelle est la différence entre les deux?
Bah, si, moi, voilà, je pourrais parler du coup des appartements de coordination thérapeutique, puisque moi, en tant qu'infirmier, effectivement, c'est ce dispositif qui m'intéresse, enfin, dans lequel je suis le plus engagé. Les appartements de coordination thérapeutique, ils sont ouverts pour des personnes, effectivement, qui ont ce qu'on appelle des pathologies chroniques. Alors, au départ, ce dispositif était fait pour des personnes essentiellement avec des pathologies VIH ou SIDA. Au jour d'aujourd'hui, on s'est ouvert à ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc, effectivement, le VIH, mais aussi les hépatites C, les cancers et toutes les pathologies endocriniennes comme le diabète ou des choses comme ça. C'est des gens qui sont dans une grande précarité et qui n'arrivent pas, du fait de leur précarité, de pouvoir prendre en charge leur santé, leurs soins. C'est souvent des gens, effectivement, d'origine étrangère qui ne maîtrisent pas du tout le parcours de soins français. Donc, mon rôle à moi est de les accompagner dans ce dispositif pour arriver à une autonomie, de se prendre en charge, de pouvoir se soigner correctement, de pouvoir avoir un médecin traitant, de pouvoir comprendre leur maladie, de pouvoir suivre leur traitement correctement et pour le coup de retrouver une autonomie sur le plan de la santé. Donc ça, c'est le dispositif d'appartement de coordination thérapeutique et comme son nom l'indique, c'est la porte d'entrée, c'est la maladie. Après, on a d'autres dispositifs à Basilia, du coup, qui est l'appartement relais où je vais laisser Elodie.
Alors, l'appartement relais, c'est un dispositif de logement temporaire qu'il a, en tout cas pour ce qui nous concerne, les 6 appartements qu'on a sont exclusivement réservés aux personnes VIH. Et donc là, la particularité, c'est que les personnes n'ont pas besoin d'accompagnement spécifique autour du soin. C'est vraiment plus sur l'insertion sociale. Et en général, ça sert de tremplin avant l'accès vraiment à un logement autonome. Parce que beaucoup de personnes qu'on accueille ont un parcours derrière eux assez lourd et qui ont besoin de se stabiliser, de se poser, renforcer les bases dont on a tous besoin pour être serein dans un logement. Et voilà.
Je voulais juste rajouter du coup, parce que M. Romero tout à l'heure nous parlait effectivement de l'exclusion sociale des personnes au jour d'aujourd'hui en 2016. Elle est effectivement très importante et les personnes, ou en tout cas les résidents, les personnes qu'on accompagne à Basiliade, ont souvent effectivement cette exclusion sociale qui fait que ces appartements relais, ces appartements de coordination thérapeutique et le lieu de vie qui est nos bureaux leur servent effectivement de point de ressources un petit peu pour pouvoir se repartir sur une autonomie de vie. Elle est réelle, cette exclusion sociale.
Oui, ben ça, certainement. Puis je suppose que les temps font que ce travail-là est encore d'autant plus nécessaire. Alors, il y avait Jean-Luc Romero-Michel, donc, qui disait effectivement déjà, bon, il y a par rapport à l'entourage, le déni un peu de la maladie, quelque part. Et puis, il y a aussi bon, le contexte actuel qui fait que peut-être la demande est permanente et même exponentielle. Je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire, mais ça doit être difficile aussi de choisir, parce qu'il faut choisir à un moment qui on va héberger, qui on ne va pas héberger. Vous refusez peut-être beaucoup de dossiers, mais il va falloir... faut trier, quoi.
Oui, on a beaucoup de dossiers quand même. Alors... nous, comme on accueille toutes les pathologies chroniques, voilà, on est ouvert à tous, entre guillemets. Et par exemple, pour cette année, on a eu 70 dossiers de demande. Donc forcément, après, on a une commission qui se tient pour déterminer la personne
En fait, accueillera. C'est les cas les plus urgents, je suppose,
c'est souvent le cas.
En priorité.
On est obligé de faire une priorisation, effectivement, de la précarité qui nous permet pour certains de dire ils sont prioritaires par rapport à d'autres et on les accueille dans les appartements. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que depuis en 2016 on vient d'ouvrir des bureaux à Basiliade Bourg-en-Bresse et on a donc 5 appartements qui vont ouvrir sur la ville de Bourg-en-Bresse, ce qui permet du coup de couvrir le département de l'Ain qui n'était au jour d'aujourd'hui pas couvert par les appartements de coordination thérapeutique, sachant qu'il y en a à peu près 200 dans la région, alors je sais plus si c'est la région Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, et il y en a à peu près 70 sur Lyon. Parce qu'il y a plusieurs associations, Basiliade en est une, mais il y a d'autres associations.
Parmi d'autres
qui gèrent ce dispositif d'appartement.
Les ACT, les fameux appartements de coordination thérapeutique dont nous parlons. Donc, d'ailleurs, en ce qui concerne, parce que moi, je suis toujours très terre à terre, ces appartements, je suppose qu'ils sont dans le domaine, pas dans le domaine privé, c'est du domaine public, c'est l'opaque, comment ça se passe ?
Pas forcément.
Pas forcément.
On a des deux parce que il est très difficile quand même d'obtenir des logements dans le parc social, surtout dans la région de Lyon où le flux est très tendu, comme tout le monde sait.
Ouais.
Donc nous, comme tout le monde, pour avoir accéder à ces logements, c'est très compliqué.
Alors les appartements sont éparpillés aussi, ils ne sont pas tous regroupés évidemment dans un même lieu. Donc ça vous oblige aussi quand même à une certaine...
notre travail est de faire des visites à domicile, donc on est régulièrement sur l'extérieur. On accompagne les gens, enfin bon, ce qui me concerne, sur des soins médicaux, chez le médecin, ou quand il y a des prises de sang ou des choses comme ça. Après, on fait des visites à domicile. Tous nos appartements, effectivement, sont entièrement équipés, puisque c'est de l'hébergement temporaire. Donc, on imagine que la personne qui arrive, elle n'a pas de meubles et elle a juste souvent une valise et des affaires à elle. Donc, les logements sont entièrement équipés. Et la personne participe financièrement, là, je laisserai plutôt Élodie vous raconter ça, participe financièrement au logement en fonction de ce qu'ils peuvent effectivement apporter.
Mais, en fonction des ressources, oui. Tout à fait.
Avec des aides, je suppose quand même, il peut. Enfin, encore que tout dépend de la situation de la personne. Parce que si c'est une personne sans papier, est-ce que je ne sais pas si vous avez des personnes sans
papier.
Alors,
notre dispositif aussi, est ouvert à tous, c'est-à-dire que le fait d'être sans papier n'est pas bloquant.
D'accord.
On accueille les personnes sans papier.
Alors là, c'est plus compliqué par contre.
Oui, parce que déjà, il y a toute la démarche d'accéder à l'ouverture de ses droits auprès de la préfecture. Le maintien des droits aussi, qui dans le temps n'est pas toujours, ne tient pas, et du coup qui...
C'est jamais acquis de toute façon.
C'est jamais acquis. Donc oui, c'est, ça fait partie des choses qui peuvent être compliquées, et d'autant plus que nous, on a une population migrante qui est très importante en fait. Hein.
Oui.
On a 90% des personnes qu'on accueille qui sont d'origine étrangère.
D'accord.
Alors, ça a un enjeu particulier au niveau de la santé, parce que c'est des gens, du coup, qui ne maîtrisent pas du tout le système de santé français, et parfois aussi qui ne parlent même pas la langue française.
Ouais.
Donc, il faut qu'on travaille, nous, avec des interprètes et avec nos propres moyens pour essayer de communiquer avec les gens et d'essayer qu'ils arrivent à appréhender le mieux possible leur maladie, leur pathologie, et après, du coup, de se soigner, effectivement, correctement.
Ouais. Et puis, effectivement, il y a le fait d'être avec des populations étrangères, il y a tout ce qui est aussi... Alors déjà, il y a le fait d'être déraciné de ses choix, d'être dans une communauté où, comme disait M. Romero, il y a l'exclusion, mais qui est faite même avec les proches, où c'est très compliqué aussi de pouvoir annoncer sa maladie, de pouvoir le vivre, dire sereinement et pouvoir juste se dire « je suis malade » et « c'est pas grave, mais c'est très compliqué ». Il y a ça, il y a le fait aussi de se dire j'ai une maladie qui n'est pas anodine quand même, quelle qu'elle soit dans les pathologies chroniques qu'on peut avoir, c'est pas anodin, ça a une répercussion. Ça veut dire qu'il faut que je me prenne en soin de moi, mais dans la globalité, ça veut dire qu'il faut que je puisse accepter aussi que parfois je suis fatiguée, que j'ai un handicap. Donc il y a toute cette démarche de la personne qui est énorme. Et du coup, l'accès aux droits, faire un dossier à la MDPH pour avoir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, une allocation adulte handicapé, c'est des choses qui sont très longues, parce que déjà, il faut que la personne puisse l'accepter. Après, il y a tout ce qui est démarche papier, où là encore, il y a les délais de traitement qui sont très longs. Donc les personnes, avant qu'elles aient des droits, ça peut prendre un an. Si en plus de ça, il y a une perte de papier entre-temps, forcément, patatras, tout s'écroule, il faut reprendre tout depuis le début. Donc, c'est vrai que la question du droit, des ressources, c'est vraiment des questions centrales dans notre accompagnement. Donc, on a la chance, d'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas de ressources, de travailler avec des associations qui sont vraiment un appui pour nous extraordinaire, la Banque alimentaire, le Chaînon manquant, qui nous donne des denrées et qui nous permettent justement de fournir les aliments et les produits de base aux personnes qu'on accompagne. Et ça, c'est vraiment important.
Oui, parce qu'il y a aussi la question des moyens.
Oui.
Donc, les moyens, je suppose qu'on peut vous faire des dons à Basiliade.
Tout à fait.
Mais vous avez aussi besoin d'argent. Est-ce que les collectivités territoriales participent, l'État, la région?
Au jour d'aujourd'hui, en fait, le dispositif d'appartement de coordination thérapeutique, il est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire le ministère, l'État.
Oui.
Après, on a des subventions, effectivement, du SIDAction, de
Solidarité
SIDA. Et puis des aides un peu de la ville de Lyon aussi qui nous aide dans ce dispositif et dans les autres. Mais c'est vrai qu'on est toujours à la recherche et de bénévoles, parce que c'est important de faire vivre le lieu Basiliade, parce que c'est ce qu'on appelle une maison. Enfin voilà, c'est un endroit un peu convivial. Oui. Et puis financier aussi, puisqu'on a malheureusement de plus en plus de gens qui n'ont pratiquement plus de ressources et pour lesquels effectivement il faut entièrement les prendre en charge financièrement, quoi.
Alors c'est l'association Basiliade, on l'a bien compris, c'est une association aussi qui cherche à tisser des liens entre tout le monde. Vous avez des activités collectives, bon, vous recevez aussi des gens qui ne sont pas spécifiquement hébergés, on l'a dit, une autre population. Mais là vous faites en sorte que les salariés, les bénévoles de Basiliade cherchent à travailler en commun, un peu à mettre tout ça ensemble. Il y a des activités communes, par exemple. Il y a des ateliers linguistiques, par exemple, pour les migrants, ou je ne sais pas.
Ça, on aimerait le mettre en place. Donc, si un bénévole voudrait toquer à notre porte pour proposer des cours de français, on est preneur.
Eh bien, le message est lancé.
Voilà.
C'est vrai qu'on est toujours lié, de toute façon, à la question du coût. C'est-à-dire que nous, on a plein d'idées sur des activités, effectivement, collectives, qui pourraient être de la socio-esthétique pour les gens, effectivement, de se remettre par rapport à leur façon d'être et à leur visuel, travailler sur de la balnéothérapie, travailler sur des ateliers cuisine, sur des choses comme ça.
Tout ça, ça se fait déjà.
Alors, il y en a quelques-uns qui ça se fait, ça c'est fait. Malheureusement, c'est vrai que sur le long terme, c'est souvent budgétivore, malheureusement, ça consomme des coûts. Alors, on écrit des projets, on essaie d'avoir un peu d'argent, mais si après, des fois, on a des bénévoles qui viennent et qui maîtrisent, notamment un cuisinier qui pourrait maîtriser, ou des diététiciennes qui pourraient nous aider, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très, très important. Les bénévoles, ils sont comme nous. Nous, on est salariés, donc on travaille effectivement en journée. Les bénévoles, c'est plutôt des actions qu'ils font en dehors des heures de travail. Du coup, ça permet que le lieu vive sur une période beaucoup plus longue, sur un temps beaucoup plus long dans la journée, quoi. Les soirées, il y a peu de salariés qui restent sur les soirées. C'est plutôt les bénévoles qui les animent. Nous, on est plutôt sur des activités collectives qui sont en journée, quoi, qui permet donc du coup aux salariés d'être présents.
Mais quand même, depuis cet été, on a la chance d'avoir des médecins qui viennent faire une intervention une fois par trimestre sur des thématiques spécifiques autour du VIH et qui là sont ouverts aux résidents qu'on accueille nous en hébergement, mais aussi aux personnes qui viennent lors des permanences et avec salariés et bénévoles. Et c'est vraiment des actions super riches, super intéressantes.
Des salariés qui représentent différents types de professions. Je suppose qu'il y a des salariés, des travailleurs sociaux, infirmiers comme Lionel, médecin, coordinateur psychosociaux, des médecins.
On a, au niveau médical, on a donc des postes d'infirmiers, des postes de médecins, bon, à temps partiel évidemment, ce n'est pas des temps pleins, de psychologues, de chefs de service, de coordinatrice, psychosociale, donc avec différents métiers, le métier éducateur ou le métier de conseillère en économie familiale. Donc, Élodie.
De moi-même.
Bon, en tout cas, des gens pour faire vivre le lieu aussi, des agents d'accueil, effectivement, du secrétariat, parce que l'accueil,
aussi de l'administratif,
on parlait de l'accueil tout à l'heure à Basiliade, c'est effectivement un point d'orgue pour nous, et de faire vivre ce lieu et d'avoir des gens pour accueillir les personnes, toutes qu'elles soient, viennent au bureau.
On sait aussi, donc vous l'avez dit, on aurait dû avoir normalement un bénévole, mais il est malade. Il y a aussi des bénévoles, du volontariat. On peut s'engager
tout à fait
auprès de Basiliade en tant que
militant. On est référencé sur Google, Basiliade Lyon, vous avez ça, il y a un site internet.
Il y a le site internet, basiliade.org. Je remettrai de toute façon les coordonnées de l'association Basiliade, donc à Lyon, sur les réseaux sociaux, Facebook et puis le site de l'émission. Vous parliez donc de... Il y a un encadrement aussi, vous avez une chef de service, je crois, et vous vouliez lui dédicacer quelque chose.
Tout à fait.
Alors, une chanson, pour quelle raison?
C'est son anniversaire.
Ah, on ne dira pas
Sophie,
son âge.
Joyeux anniversaire.
C'est pour ça qu'on est là, mais on voulait lui dédier cette chanson pour elle.
Parce que c'est une fan de Cure, d'après ce que j'ai compris.
Et alors, la petite Vénarde est allée au concert.
Donc,
c'est encore très frais dans sa mémoire.
D'accord.
Donc,
Et donc, vous avez choisi un titre spécialement pour elle.
Oui, Close to Me.
Close to Me. Bernardo, Close to Me.
Merci.
Non, attends, il n'y est pas encore. Non, Bernardo, il faut le temps. Ah, si, ça marche.
C'est pour toi, Sophie.
Pluriel Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Ah, Bernardo, merci. Donc, Bernardo, nous sommes de retour. Donc, merci Bernard de nous avoir remis en ligne sur les ondes avec Elodie et Lionel de l'association Basiliade. Alors, on parlait un petit peu hors antenne, on disait que le premier contact avec l'association Basiliade, c'était la permanence en fait. C'est la première démarche, la première façon de prendre contact avec les personnes de Basiliade, c'est d'aller aux permanences qui ont lieu donc les mardis.
Les mardis matins à partir de 9h30 jusqu'à midi autour d'un petit déjeuner. Donc il y a des bénévoles qui vous accueillent très chaleureusement. Et il y a aussi la possibilité, on propose aussi une permanence sociale à ce moment-là. Donc, en cas de besoin, ma collègue Vanessa ou moi-même, on peut recevoir les gens pour répondre à leurs questions.
Et je crois savoir que demain, 1er décembre, donc, il y a quelque chose de particulier, des crêpes, je crois. J'ai entendu parler de crêpes. J'aime bien les crêpes, c'est bon.
C'est ça.
Donc, les dossiers peuvent vous arriver aussi par d'autres organismes. Je pense à des associations comme le Forum des réfugiés, etc.
Pour les appartements de coordination thérapeutique, les dossiers arrivent soit des médecins, du coup, des services hospitaliers ou d'un médecin traitant, soit qu'ils nous viennent des associations comme l'ALS ou comme d'autres associations qui suivent des gens ou Forum Réfugiés quand il y a effectivement des situations précaires ou avec des personnes migrantes. Et du coup, voilà, il y a un dossier médical et un dossier social qui est fait, qui nous arrive par courrier et qu'on traite effectivement comme...
Et le dossier se trouve sur le site internet en libre accès, sur le site de la FNH-VIH. Donc, qui explique aussi un peu comment ça se passe. Donc, si les gens ont des questions, se demandent comment faire, le formulaire est en ligne.
Ou appeler Basiliade et on peut leur envoyer, il n'y a pas de souci.
Alors, avec Jean-Luc Romero, on évoquait le fait qu'il y avait comme une forme de némobilisation un petit peu autour du VIH, autour de l'épidémie du sida, comme si c'était devenu un peu un simple rhume, je dirais. Mmh. Est-ce que Enfin, moi, je dirais que par rapport à la journée du 1er décembre, je constate d'année en année une érosion quand même de l'engagement. Alors, je ne parle pas des associations qui restent très engagées, mais par exemple, on parlait de la chaîne de solidarité qui n'aura pas lieu pour plusieurs raisons. On parle aussi des problèmes de sécurité, mais on sait que d'année en année, il y a moins en moins de participants à la marche du 1er décembre. Il y a une marche qui est maintenue à Lyon quand même demain, j'en reparlerai en finissant l'émission. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, à titre personnel, qu'il y a comme une débanalisation totale d'une épidémie qui pourtant reste encore bien prégnante, bien présente et en augmentation dans certaines populations ?
Elle est effectivement toujours présente, hein, effectivement. Les nouvelles contaminations sont toujours réelles et même en France. Après, c'est vrai que les évolutions, et heureusement qu'il y a eu des évolutions des thérapies et des traitements qui ont fait qu'il y a au jour d'aujourd'hui effectivement vraiment un échantillonnage thérapeutique qui permet de se soigner correctement, mais de ne pas se guérir du VIH. Enfin, c'est là et toute la question. C'est que au jour d'aujourd'hui, on peut stabiliser, effectivement, faire disparaître la charge virale, les virus dans le sang, et on peut faire remonter les globules blancs pour que les gens puissent avoir une vie, effectivement, relativement, normale, mais avec des traitements qui sont lourds, avec un suivi médical qui est lourd, et avec un impact social qui est quand même important. Et au jour d'aujourd'hui, on sent forcément dans la jeunesse d'aujourd'hui moins d'implication, puisque moins de visibilité de cette maladie, comme ça a pu l'être dans les années 80, où on voyait réellement effectivement les dégâts de cette maladie. Maintenant, il faut trouver d'autres enjeux, il faut trouver d'autres solutions de sensibilisation. Maintenant, on est à l'ère numérique avec la tablette, avec les applications. Je ne sais pas, il faut peut-être changer les choses.
Et que même aussi, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'il y a eu aussi des grosses évolutions sur les modes de dépistage avec les trônes notamment, où le dépistage est très rapide. Ça n'en reste pas moins que même si le résultat est négatif, on ne peut pas se dire je vais faire un trot tous les 4 matins et je vais continuer à ne pas faire attention. Ça nécessite que les gens restent aussi responsables de ce qu'ils font et que heureusement on a des avancées médicales pour le VIH, les traitements sur le dépistage. Mais voilà, ça reste quand même, chacun doit vraiment toujours avoir en tête, et c'est de la responsabilité de chacun de se dire, moi aussi j'ai ma part de responsabilité, donc comment je peux à un moment donné arrêter l'épidémie du VIH ?
Un dernier mot avant de nous quitter, parce que l'heure a tourné malheureusement. Que pensez-vous donc de la PrEP qui fait beaucoup parler d'elle aussi, en bien et en mal, on est pour, on est contre.
On en parlait à midi.
c'est vraiment un sujet de débat. Alors c'est vrai que nous, Basiliade, on n'est pas vraiment une association qui lutte effectivement contre, où on fait des actions de sensibilisation. Donc après, nous, on pourrait se positionner personnellement.
Sur le plan personnel.
Sur le plan personnel. C'est vrai que c'est un débat dans la société. Alors les associations de lutte contre le sida se sont mobilisées pour que les traitements préventifs soient accessibles et soient remboursés par la sécurité sociale, pour que effectivement ils soient accessibles aux jeunes qui ont des conduites sexuelles qui sont à risque. Maintenant, effectivement, M. Romero parlait tout à l'heure de casser la chaîne, effectivement, de contamination. C'est un des enjeux de casser cette chaîne, c'est la prévention, c'est-à-dire c'est de donner le traitement préventif pour éviter qu'il y ait des nouvelles contaminations, quoi. Après, ça, c'est un enjeu société. C'est pas moi qui vais là au jour d'aujourd'hui dire si c'est bien ou pas. En tout cas, ça existe. C'est utilisé pour certains jeunes. Et tant mieux qu'ils l'utilisent plutôt que d'être effectivement séropositifs. Je pense que ça, c'est important. Ouais. Maintenant, sur la question de la société, ça après, ouais. Je crois que c'est des enjeux autres.
Voilà, malheureusement, on n'aura même pas le temps de l'évoquer puisque l'émission touche à sa fin. Avant de vous remercier, je voudrais faire deux petites annonces. Alors, il y en a une qui n'est pas directement liée à la journée de demain, mais c'est un événement qui a lieu quand même demain, le 1er décembre, au théâtre de Givors, de rue Puy-Ollier. J'ai l'adresse complète, hein, je la rappellerai sur Facebook, de rue Puy-Ollier à Givors, donc. Le théâtre de Givors nous convie, hein, vous convie, à une soirée spéciale de présentation du film, si vous n'avez pas vu cette occasion, du film documentaire La sociologue et l'ourson, qui sera suivi d'une conférence sur le thème Le mariage pour tous, l'évolution de la famille, avec des spécialistes du droit des familles. Ça, c'est à Givors demain, 19h30. L'entrée est de 3 euros. Voilà, je tenais à en parler. Et puis, en ce qui concerne donc les événements, outre les crêpes de Basiliade, outre la remise du label « Un ville engagée contre le sida » demain à 11h au centre LGBTI, en présence de Jean-Luc Romero, Michel, nous aurons donc la marche quand même interassociative qui est maintenue, marche au départ de la place Bellecour à partir de 19h, ça débarque à 19h, on va jusqu'à Hôtel de Ville. Voilà, donc merci Élodie, merci Lionel de l'association Basiliade, j'espère que nous nous retrouverons, peut-être à l'occasion d'un reportage en direct live chez Basiliade, je fais le malin, mais on n'en fait pas beaucoup. Mais
on vous attend.
On est une association de terrain, donc on attend la radio pour nous suivre, il n'y a pas de souci.
Très bien, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Et puis bonne continuation surtout, et demain on rappelle donc journée mondiale de lutte contre le sida et le VIH. Mon petit Bernard, merci d'être déplacé.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.